Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, ce rendez-vous tardif sur RFI, mais en direct en raison des matchs de la Ligue des Champions. Et nous commencerons par l'Olympiakos, vainqueur au Pirée. Et l'OM a manqué son retour en Ligue des Champions, perdant son premier match ce soir en Grèce. Des Marseillais dominés surtout en fin de partie, là où ils ont cédé dans le temps additionnel. Le bilan des clubs français, on le dressera, est bien maigre ce soir, pour ne pas dire inquiétant. Ailleurs, il y a eu des scores fleuves sur certaines pelouses, avec Manchester City, avec l'Atalanta Bergame ou encore avec le Bayern Munich Impérial. Et puis des doublés de buteurs comme Coman et Lukaku. La surprise en début de soirée, c'est cette défaite du Real Madrid à domicile, battue par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, pourtant décimé par le Covid-19. Que se passe-t-il donc avec ces merengues en début de saison ? Nous examinerons donc ces résultats ensemble et nous reviendrons aussi sur la défaite du Paris Saint-Germain hier soir au Parc des Princes, battu d'entrée. Comment comprendre cette défaite d'une équipe qui compte pourtant tant de grands et bons joueurs, finalistes si récemment de la Ligue des Champions. Et pour terminer cette soirée de football avec nous, Patrick Juillard est resté. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci de rester pour cette soirée.
C'est
donc
un plaisir.
De football européen. Et puis Marc Libra, le Marseillais, est là aussi. Ça va, Marc ?
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça peut aller mieux, mais ça va. On va parler de nos Marseillais, justement.
On va en parler tout de suite. David Finzel est là. Il veille aussi pour le déroulé de cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Attention Valbuena,
c'est pas vrai. Et le but, et voilà le but, il est grec à l'origine, il y a Mathieu Valbuena à la conclusion, il y a un Égyptien, Ahmed Hassan, et oui, on a eu un but, on le voilà le but, pas du bon côté pour les Marseillais, pour les Grecs, pour l'Olympiakos, 1-0.
Ahmed Hassan vient gâcher les retrouvailles de l'OM avec la Ligue des Champions.
Ils attendaient depuis 7 ans leur retour sur la scène européenne. Retour manqué en dernière minute. Les Marseillais ont perdu ce premier match de groupe en Ligue des Champions. Un but sur passe décisive de Mathieu Valbuena, l'ancien Marseillais passé du côté de l'Olympiakos et qui a donc fait si mal à l'OM. L'un des meilleurs sur le terrain ce soir, c'était le latéral gauche, Jordan Amavi. Écoutons-le justement, Jordan Amavi, évoquer cette fin de match qui est un crève-cœur.
Ça va vite, c'est la Champions League, sans centre-but, mais je pense qu'on aurait pu l'éviter. Mais voilà, malheureusement, ce soir, on n'a pas été assez peut-être agressif. On aurait dû être un peu plus agressif. On l'a fait un peu trop tard, après on a eu des occasions, on les a pas concrétisées. Et voilà, c'est le football, il va falloir travailler sur ça, être un peu plus solide. Et aussi notre niveau de jeu, parce que voilà, c'est la Champions League, c'est un autre niveau encore.
Être plus agressif et être plus précis, et oui, c'est ce que constatait évidemment Jordan Amavi. On va y venir à nos analyses, parce qu'elles le rejoignent bien sûr. On va écouter aussi celle de l'entraîneur, de André Villas-Boas, qui a bien compris que les choses n'étaient pas très bien parties.
Je pense que c'était un match de détail, la première équipe que faisait un but pour vers le porter. Les équipes ont été tous bien défensivement, pas trop de grandes chances pour une et pour l'autre. Oui, dernière minute, on les allait presser un peu plus haut et après on a subi cette perte de deuxième ballon qui a donné le but. Mais bon, ça, c'est une question de détail. Normalement, c'est un ballon que tu gagnes et ça c'est fini.
Est-ce que c'est, Marc Libra, seulement une question de détail ou quand même on a eu l'impression de le voir venir, ce but de l'Olympiakos ?
C'est quand même souvent les petits détails qui font la différence dans ce genre de rencontre.
On le dit, en Ligue des Champions.
Oui, c'est les petites, c'est l'occasion de Thauvin enroulé en première période, c'est l'occasion de Benedetto. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que on peut railler un petit peu Valbuena, on peut le charrier, on peut le chambrer. En tout cas, lui, ce soir, il a été à la hauteur et il a montré une fois de plus que même à la 90e, parce que l'état physique des uns et des autres était le même niveau. Alors, Marseille baisse un peu le pied, eux, ils baissent pas le pied. Et pourtant, il y a personne dans un stade qui peut être en fusion. Il se passe rien. Eux, ils arrivent à trouver un second souffle, à faire la différence et à en pousser à la fin de rencontre. Mais au niveau de Marseille, il faut quand même faire d'autres choses, il faut prouver autre chose. Le meilleur joueur, c'est Amavi. Alors, c'est bête parce qu'il fait une paire de balles pour moi depuis le début de saison. C'est Mandanda et Amavi qui ont été présents ce soir. Mais c'est quand même qu'il y a un gros problème. Si votre meilleur joueur depuis le début de saison, c'est Mandanda et là, ça devient Amavi, c'est un petit peu dommage. Mais ils n'étaient pas, malheureusement, oui, ils étaient, il y avait la musique, il y avait tout. Mais c'était vide, c'était creux. C'est dommage.
Ouais. C'était vide, c'était creux dans les tribunes et un peu aussi sur le terrain, Patrick.
Oui, c'est un match un petit peu qui ressemblait ça ressemblait plutôt à un match d'Europa League, sans être désobligeant pour ces équipes. Les détails, oui, effectivement, sur le but, c'est petite cause, grands effets, quoi. Une perte de balle dans une zone qui paraît pas décisive et qui se transforme qui donne lieu ensuite à une occasion qui est magnifiquement conclue par l'Égyptien Ahmed Hassan Kouka qui vient de rentrer et qui est frais, lui. Donc qui peut s'élever au milieu d'une défense qui avait, pour une fois, qui n'avait pas bien serré dans l'axe, alors que c'est ce que a plutôt bien fait l'OM dans l'ensemble sur le match. Et puis, c'est, moi, plutôt que de détails, je trouve que c'est un manque, un léger manque d'initiative, un léger manque de... L'OM s'est pas mis dans le rouge, c'est-à-dire que l'OM a plutôt bien défendu, l'OM était bien en place, c'était relativement cohérent dans l'occupation du terrain, mais lorsque l'OM récupérait et pouvait se projeter vers l'avant, les attaquants étaient pas soutenus. Et on le voit sur les deux occasions de Thauvin, à chaque fois, à part la frappe enroulée au tout début, mais les deux occasions dans la suite du match, il y en a une où il rate sa reprise, mais c'est aussi parce qu'il peut pas faire de remise, donc il est obligé de reprendre. Et il y a une contre-attaque où il part tout seul côté droit, personne ne suit, personne n'offre une solution dans l'axe.
Il peut jouer seul aussi,
Et il est obligé de jouer seul parce que, à moins de faire une passe très en retrait, il va gâcher une occasion.
Éric Mamrut, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Vous étiez avec nous, sur l'antenne de RFI. Éric, vous, vu du stade, comment avez-vous trouvé cette prestation de l'Olympique de Marseille ?
Pauvre, sans génie, sans grande volonté. Ça faisait un peu match de Ligue 1, quoi. Ils ont peut-être pas compris qu'effectivement, c'était la Ligue des Champions, qu'il fallait faire plus. Alors, est-ce que c'est manque de volonté ou effectivement manque d'expérience aussi peut-être, puisque il y a 8 titulaires qui n'avaient jamais participé à un match de Ligue des Champions auparavant. Ou alors après, faut voir du côté tactique. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de combinaison, pas de mouvement, pas d'appel. Alors est-ce que c'est parce qu'un mauvais soir ou tactiquement du côté de Villas-Boas, je sais pas, il n'y avait pas quelque chose de mis en place au niveau de l'attaque. Comment on attaque, on fait des... Je sais pas, que ça bouge, quoi. Ou quelque chose, des appels, une complicité, des mouvements, de redoublement de passes. Là, il n'y avait quasiment rien, des initiatives personnelles. Donc, Thauvin un peu d'un côté. Benedetto, il a failli ouvrir la marque grâce à un ballon récupéré, une passe en profondeur. Mais à part ça, rien, c'était le néant, c'est pauvre. Alors en face, il y avait l'Olympiakos, c'est pas génial non plus, mais au moins, il y avait plus de création, quoi. Il y a plus de sécurité, plus d'automatisme quand même dans cette équipe. Alors il y avait plus de joueurs expérimentés, d'accord, mais c'est ça qui est presque inquiétant, je pense, parce que c'est une équipe pas énorme. L'OM a pas montré grand chose et c'est ça qui est plutôt inquiétant, je trouve, ce soir. Mm-hmm.
Marc, effectivement, on se souvient qu'il y avait des doutes sur le jeu ou la tactique, comme l'évoquait Éric Mamrut, d'André Villas-Boas avec son équipe. Et là, ce soir, on est resté sur notre faim.
Oui, on reste sur notre fin, mais Eric dit une chose importante. On a l'impression de voir de la Ligue 1, mais Marseille est en format Ligue 1. Et quand on voit Ligue 1, c'est quoi ? Il n'y a pas de fond de jeu, il se passe rien. C'est-à-dire que le supporter marseillais, avant une rencontre comme face à Bordeaux, alors ça se passe bien, mais avant la rencontre, il a peur. Parce que malheureusement, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il ne se passe rien. Alors on dit, c'est la faute de Benedetto. Il n'y a pas de problème. Benedetto est un joueur qui sait marquer des buts si on joue pour lui. Aujourd'hui, on a Payet d'un côté et Thauvin. Quel est le souci de Payet ? C'est ou d'essayer de chercher la dernière passe, ou alors souvent de rentrer. Et
Didier Thorin, c'est quoi? C'est être sur son pied droit, rentrer pied gauche et marquer des buts. Alors, il fait très bien puisqu'il est meilleur passeur et meilleur buteur. Mais devant, il y a quand même un joueur qui s'appelle Benedetto qui court dans le vide, qui fait des appels invisibles et qui souffre énormément. Ils m'ont dit, le problème, c'est Benedetto. À un moment donné, il faut que Villas-Boas se remette en question et mette un système de jeu. Il y a des attaquants. Ce soir, Gay, que je trouve un jeune joueur très intéressant. Pourquoi il est en sentinelle? Match de Ligue des Champions à l'Olympiakos. C'est risqué. Alors, ok, Strootman, mais il est trop payé. Mais on s'en fout qu'il est trop payé. Peut-être Strootman, c'est peut-être plus intéressant de le mettre ce soir. Je sais pas si c'est mieux, mais il a été bon.
Voilà, il n'a pas fait un mauvais match.
Je suis d'accord. Mais c'est trop difficile, puisqu'en fin de rencontre, tu vas perdre un ballon ou tu n'es pas dans le bon tempo. Tu ne peux pas venir couvrir parce qu'Amavi est sorti. C'est ça qui est dommage.
Alors, je suis d'accord, il n'a pas fait un mauvais match, mais il manque effectivement un peu de vis. Parfois, la petite faute qui va permettre à l'équipe de se replier.
Mais Eric te dit, c'est la Ligue 1. Alors, pour la Ligue 1, cet erreur-là, peut-être le centre de Valbuena, il va au deuxième poteau.
Oui,
ou alors,
peut-être que l'attaquant ne cadre pas sa tête.
Voilà. Eh bien, Ligue des Champions, ces joueurs-là qui sont habitués, eh bien, ça va au fond.
Non, mais je partage ton avis, Marc. Après, moi, je trouve que globalement, ce milieu de terrain très.
Défenseur, égal,
très travailleur. Il a dans le jeu sans ballon, il était là. C'est-à-dire que il se repliait bien, il soutenait bien sa défense. Enfin, il laissait pas ses défenseurs livrer à eux-mêmes. Mais dès que l'OM récupérait des balles, parce qu'elle en a récupéré en transition, il y a plus personne. Alors Rongier, globalement, je lui reproche pas grand-chose, mais un joueur comme Sanson, qui a encore une saison et demie, était pratiquement en termes de stats l'égal d'un Thauvin. Où est-il aujourd'hui? Où est-il? On parlait de lui pour un transfert vers la Première Ligue.
Regarde, il n'est pas parti. Hein.
Oui, il n'est pas parti. est-ce que c'est pas ça qu'il a du mal à dire? J'en sais rien. Mais au final, je suis très déçu par ce joueur. J'aurais peut-être aimé voir Cuisance un peu plus tôt. Peut-être ne serait-ce que pour aiguillonner les autres aussi, faire des changements un peu plus tôt. Mais globalement, je pense pas que ce soit Villas-Boas, Benedetto. Parce que c'est collectif. Le problème, c'est que l'OM a touché une certaine limite.
Tu as raison, mais dans les milieux de terrain dont on parle, que ça soit Sanson ou Rongier, est-ce que ces joueurs-là sont capables de faire une voie de 30 mètres pour aller vers le but? Ils sont pas capables aujourd'hui.
Non, on voyait d'ailleurs que c'était très lent les contre-attaques. Immédiatement, l'Olympiakos se repliait.
Non, mais c'est bien. Il prend le ballon, il remet à 10 mètres, il remet à 5 mètres, il fait une couverture devant.
C'est scolaire, quoi.
C'est très bien. Par contre, prend le ballon, fait une ouverture à 30 mètres pour Benedetto. Ben, ça y est, aujourd'hui, il n'y arrive pas. Donc, on attend Payet. Ah non, mais on le sait. C'est Payet qui va nous faire. Payet sur coup de pied arrêté. Il n'y a que Payet. Mais à un moment donné, c'est bien beau dire c'est que Payet ou c'est que Thauvin, mais une équipe, c'est un ensemble de joueurs. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Ça commence pas très bien, du coup, pour Marseille. Parlons un petit peu de la prestation de l'Olympiakos. Vous étiez aux premières loges, Eric. Et cet Olympiakos a bien attendu son heure. Hein, c'est la sensation qu'on avait.
Oui, de toute manière, ils étaient obligés d'essayer de faire la décision. Hein. Ils jouent chez eux, sans public de surcroît. Donc, forcément, le Grec, en même temps, à mon avis, est fier. Donc, s'il y a moyen d'aller chercher une victoire, surtout, ils sont un peu dans la même position que Marseille. Hein. S'il y a un match à gagner, c'était d'abord celui-là, à domicile, face à Marseille. Hein. Mm-hmm. Donc, évidemment, ils n'ont jamais renoncé, surtout mis en confiance, je pense. Par le fait que le temps passant, Marseille se montrait de moins en moins dangereux. Hein. On a vu en deuxième période, après l'occasion de Benedetto, il n'y a pas eu grand-chose côté marseillais. Donc les Grecs se sont hardis de plus en plus. Ils ont eu ce but refusé. On se demande pourquoi à la 52e minute, inscrit par Massouras, apparemment pour un hors-jeu. Bon. Très, très discutable.
Après, Patrick Juillard et Marc Lebrun ne sont pas du
avant,
tout.
Peut-être hors jeu avant.
Au mais tout départ, mais sinon, sur l'action, il me semble que Sakai le couvre. Hein, mais bon.
Au tout départ, mais après, il y a hors jeu quand même, quoi qu'il arrive.
Après, même si ensuite, à la 68e, et l'Arabi hors jeu au départ, il y a cette double occasion Valbuena-Rangelovic. Donc, ça donne confiance, tout ça, à une équipe qui, quand même, était bien en place, bien placée. Là, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne bien sur les lignes. La défense centrale, elle est bonne. Hein. Semedo, c'est quand même pas mal. Les latéraux, ils apportent, surtout Rafinha avec son expérience, 35
ça
ans.
Ça connaît l'Europe.
C'est pas, Massouras, Bouchalakis, quand même, avec Yann Mvila, même si c'était son premier match de Ligue des Champions, Yann Mvila, il a de la bouteille quand même, hein, il a fait le tour d'Europe, il connaît les grands clubs. et les matchs de cet acabit. Et l'Arabie aussi, il a de la bouteille, 33 ans, il était dangereux. Donc c'est une équipe plus compacte, qui propose plus de choses, enfin qui a montré plus de choses ce soir que l'Olympique de Marseille. Avec la cerise sur le gâteau, le petit plus, c'est quand même Mathieu Valbuena, parce que quand même, malgré ses 36 ans, bah, il est capitaine, il a fait une très très bonne saison passée avec l'Olympiakos, en faisant, je crois, 20 passes décisives et 23 passes décisives et 10 buts. Donc il est bien installé. Ce soir, il a encore été au départ de toutes les bonnes actions. Quoi, hein. Il a été là, les petites étincelles quoi, qu'il n'y a pas chez l'OM.
C'est ça, et surtout, Eric, je trouve qu'il apportait du liant dans le jeu.
Voilà,
ce que l'OM n'a pas fait, avec un milieu très travailleur, mais qui n'allait jamais vers l'avant. Et des joueurs offensifs qui, dans l'ensemble, se faisaient un peu oublier aux avant-postes et laissaient les autres se débrouiller tout seuls. Donc, l'Olympiakos était plus équilibré, quoi.
Résultat, après avoir dressé ce bilan de ce match, Marc, que penser pour la suite de la compétition dans le même groupe? On va y revenir après en détail, mais Manchester City
et Porto
sont là, et c'est Manchester City qui l'a emporté sur le score de 3-1 avec des buts d'Agüero, Gundogan et Torres.
C'était le match à gagner parce que le premier match d'une compétition va lancer un petit peu la compétition, et on disait c'était les deux petits. Donc il faut vite prendre des points, mais vite prendre des points face à l'Olympiakos. Bon, maintenant, il va falloir...
Oui, c'est leur 20e participation en Ligue des Champions, même si c'est que les phases de poule, mais ils ont l'habitude du rythme.
Lors du tirage au sort, nous étions ensemble, et je vous avais dit sur certains... Je crois qu'on était ensemble, non, tous les trois. Et j'avais dit que peut-être sur certains matchs, il faudrait faire l'effort de battre l'Olympiakos et de laisser un match comme City, parce qu'il y a encore le championnat, et ils vont jouer toutes les semaines. Maintenant, il va falloir réfléchir.
Ils n'ont plus le choix.
Ouais, mais en fait, quand ils n'ont plus le choix, mais quand on voit le jeu pratiqué par Marseille, même au Vélodrome, et depuis le début de la saison,
je suis d'accord, mais par
contre,
là, je pense que la défaite de ce soir va faire mal, non seulement pour le résultat en lui-même, mais en plus parce qu'elle intervient à la dernière minute, donc c'est d'autant plus dur pour les joueurs. Si contre Manchester City, l'OM se dit bon, bah de toute façon c'est foutu, on peut rien faire, ils risquent de prendre un gros bouillon, et là ça peut faire encore plus mal.
C'est ce qu'ils peuvent penser.
Et en plus pour le classement, c'est pas bon, parce que ce soir Manchester City, ils ont mis du temps.
Ils ont mal commencé, même partout.
Encaissé en premier.
Non, ils étaient menés 1-0.
Donc là, je pense que la piqûre de rappel, eux, ils l'ont eu. Hein.
Surtout,
donc,
ce qu'il ne faut pas, c'est que demain, dans la presse ou qu'à Marseille, on nous annonce que c'est la faute de Benedetto parce qu'il y a eu l'occasion.
Non, c'est pas vrai.
Il faut arrêter de dire que c'est Benedetto. Il est fautif, d'accord, mais c'est tout un groupe.
L'occasion, elle ne vient pas à la 89e.
Exactement. Donc à un moment donné, il faut arrêter parce que chaque fois, ah non, mais c'est Benedetto le problème. Ok,
non,
d'accord.
Donc, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, Benedetto.
Mais donc c'est pour ça que Villas-Boas doit travailler dans ce sens, peut-être passer à un système de 4-4-2, de renforcer peut-être son milieu et passer avec un Germain, comme on en a parlé avant l'émission. Je pense qu'un Germain peut être très intéressant. On va se rappeler de l'époque de Nice où Germain était à Nice.
Absolument, il jouait à 2
en 9,5. Il est extraordinaire. Nous, à Marseille, on l'a pris. T'es un vrai neuf. Mais non, mais il n'est pas vrai neuf. Il aime se balader et aller partout.
Oui, et puis c'est un joueur qui a un bon jeu de tête, qui peut jouer en remise.
Premier poteau comme son père.
Qui peut jouer en combinaison, parce qu'on le décrit comme un peu limité techniquement. C'est pas vrai. Il peut faire des remises, des bonnes passes.
À Nice. Et puis à chaque fois qu'il rentre, en plus, il peut être
un joueur qui se bat, c'est un joueur de
exactement.
Devoir.
Eh bien, on parlait de Mathieu Valbuena, on va l'écouter, Mathieu Valbuena. Il répondait à nos confrères d'RMC il y a quelques instants.
C'est un match très très spécial pour moi. C'était pas facile à pouvoir, dans un contexte comme celui-là, retrouver l'Olympique de Marseille en Champions League. Mais quand on est sur le terrain... On joue, aujourd'hui je suis à l'Olympiakos, j'en suis très heureux. Et on a fait une très belle partie et forcément j'ai été décisif. J'aurais pu l'être avant, mais Steve a fait des beaux arrêts. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit pincement au cœur, mais bon, je suis aujourd'hui très content pour l'Olympiakos parce que je pense qu'on mérite cette victoire.
Et oui, évidemment, on mérite cette victoire, dit-il. Eric Mabrut, voulez-vous rajouter quelque chose avant qu'on ne vous laisse aller travailler?
Oui, juste une petite stat, parce que mine de rien, ça fait la 10e défaite consécutive pour l'OM en Ligue des Champions. Ça fait lourd, effectivement. Il y avait eu le zéro pointé de la dernière campagne 2013-2014, ouais. Mais il y avait eu des défaites aussi auparavant, donc c'est moche, rude. Ça fait mal, ouais, c'est rude. Et même en Coupe d'Europe, il reste, l'OM reste sur maintenant 9 matchs en victoire. 8 défaites, 1 nul avec la Ligue Europa. Depuis la fameuse finale qu'on a commentée ensemble, Marc, avec
oui, c'est vrai.
Jousset à Lyon. Et bah, depuis vrai. Aussi, avec l'Europe, l'OM est fâché avec l'Europe. Hein. Ça ne prend pas, ça ne marche pas. Il va falloir vraiment comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que ce soir, je crois que le constat est que... Là, enfin, moi qui ai peu vu les précédents matchs de l'OM, moi je vois une équipe qui ne tourne pas, qui ne fonctionne pas, en tout cas offensivement. Ça ne peut pas marcher comme ça. Peut-être que Cuisance, dont on a vu l'apport précieux lors du match contre Bordeaux... D'ailleurs, il y a une victoire 3-1, tiens, après 3 matchs nuls. Lui, il va peut-être apporter quelque chose et forcément, il va impliquer un changement tactique. Je crois qu'il faut effectivement, pour Villas-Boas, là, changer quelque chose radicalement dans la tactique. Sinon, ça, effectivement, là, dès mardi prochain et même après, enfin, mardi prochain, c'est Manchester City au Vélodrome, mais dans un Vélodrome vide. Alors, effectivement, peut-être avec les supporters, il peut se créer une magie, mais là, il n'y aura pas de magie. Ça sera que la magie du terrain. Là, il faut, à mon avis, un électrochoc, quoi. Quelque chose, il faut changer quelque chose là.
Et à huis clos en plus. Merci beaucoup, Eric Mamrud, d'avoir été en direct avec nous. On vous laisse aller danser. Il y a Laurent Salerno qui vous invite à la danse.
Je vais danser maintenant.
Envoyez des photos surtout.
Sur les cendres de l'OM.
C'était Nana Mouskouri, les enfants du Pirée, non?
Ah, peut-être, oui. Merci beaucoup, Eric Mamrud. Kalinikta, comme on dit du côté d'Athènes. Oui, effectivement, eh bien, on se penchera sur le cas de l'OM et l'OM qui jouera en championnat au cours du week-end en plus.
Donc, à Lorient.
À Lorient, ouais. Beaucoup de choses du côté de tous ces clubs. Hein, de toute façon, on y viendra sur ce côté très compliqué pour l'ensemble du monde du football. Justement, profitons-en, arrêtons-nous juste sur ces 3 clubs français. Les 3 clubs qualifiés en Ligue des Champions ont joué. Hier, on a eu une défaite du Paris Saint-Germain à domicile. On a eu un match nul de Rennes qui jouait là pour la première fois. C'était même pas un retour, c'était la première fois. Et puis, la défaite de Marseille. Que diriez-vous, Marc Libra, de ce bilan? On est à la première de 6 soirées, mais bon.
Ouais, non, mais pour l'instant, c'est pas. On s'attendait à beaucoup mieux côté parisien, côté marseillais. On n'était pas forcément très serein. Enfin, moi, j'étais pas forcément très serein. Je dirais pas que c'est logique la défaite, mais j'étais beaucoup plus inquiet. Pour Paris, je pensais vraiment que ça allait passer. Ça ne le fait pas. Alors ça, c'est encore un état d'esprit, une mentalité dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Et pour Rennes, c'était la découverte. Il aura manqué cette petite expérience parce que ils méritaient mieux. Mais souvent, quand on mérite mieux, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas prévu pour ce genre de confrontation. Il y avait tellement d'envie, peut-être d'émotion. Enfin, ça passe pas, c'est dommage. Mais on s'est régalé en sachant que Rennes, depuis début décembre, pratique un des plus beaux footballs. Donc c'est un petit peu dommage pour eux, mais il n'y a pas de logique dans le football.
Patrick Juillard.
Oui, je partage globalement ce constat. Bon, la plus grosse déconvenue, c'est évidemment le PSG, parce que passer de finaliste de la Ligue des Champions, alors même dans des circonstances qu'on va pas rappeler voilà. À ce qu'ils ont montré hier soir, c'est catastrophique. L'OM, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est-à-dire, même si l'équipe ne tourne pas, comme l'a dit justement Eric, sur la physionomie du match, il y a moyen de ramener au moins un point quand même. On peut pas laisser filer un match sur une petite série d'erreurs comme ils l'ont fait à la fin. Et Rennes, finalement, qui sauve l'honneur au moins dans le jeu. C'est-à-dire que eux, ils ont fait plaisir à leur public parce qu'eux ont joué devant du public.
5000 personnes, il y avait.
Et on avait l'impression qu'il y en avait 3 fois plus parce qu'il y avait un boucan. Enfin, c'était une ambiance folle.
Petit stade.
Mais il a manqué un petit grain de chance, un petit grain aussi d'expérience. Le gardien de but, Alfred Gomis, que j'aime beaucoup, sur la frappe en pivot, double pivot de l'attaquant équatorien, il se fait un peu surprendre entre lui et son côté fermé. C'est dommage, c'est des petites choses. Voilà, mais Rennes, au moins, sort la tête haute de cette première journée. Ouais. Les deux autres, non.
Et oui. C'est ça le problème. On continue, on reviendra tout à l'heure sur les gros scores de la soirée, mais d'abord commençons par cette surprise. Là, c'était le premier match entre 19h et 21h, et ça commençait mal.
Oh, Otra buena pelota había filtrado Marcos Antonio. Va Kornisenko, se animó el zurdo, la pisó, va con derecha Marcelo, Tete. ¡Gol! ¡Gol! Del Shakhtar Donetsk. ¡Qué noche para el Shakhtar Donetsk en Europa!
C'était le premier but du Shakhtar Donetsk qui allait en inscrire 3 avant que le Real Madrid ne se réveille et ne vienne finalement conclure ce match sur le score de 3-2. Donc défaite du Real Madrid et on a l'impression que rien ne va plus du côté du club de Zinedine Zidane qui s'incline en plus à domicile. Le Real a donc été mené à la mi-temps. Peut-être aussi qu'il y avait un des pilier de cette équipe, Raphaël Varane, associé à Militao, qui ce soir aura beaucoup fauté, peut-être, je sais pas comment dire, Patrick Juillard.
Ouais, alors moi je mettrai pas tout ça sur le seul Raphaël Varane.
Bah, il marque un but contre son
camp. Oui, il est pas bon, mais il jouait sans Sergio Ramos quand même, ce qui est quand même pour lui un point de repère important. Je trouve que le Real a dormi en fait pendant une mi-temps. Hein. Ils sont pas rentrés dans le match avant.
Pas de couvre-feu là-bas.
Il y a pas de couvre-feu, mais là ils étaient en pantoufles sur le terrain. Ils jouaient pas un match de foot et ils se sont dit bon, on va se refaire en seconde. Mais non, ça a pas suffi parce que en face il y avait une équipe qui, même si elle était diminuée, reste une équipe
largement diminuée avec
beaucoup d'absents à cause du Covid-19. C'était à la limite de, enfin, heureusement pour eux, ils avaient assez de joueurs parce qu'on sait que l'UEFA est très stricte et peut infliger des défaites par forfait si l'équipe fait défaut.
Ils ont eu raison de venir, donc.
Ils ont eu raison de venir. Ce match était bizarre aussi parce que ça a l'air anecdotique, mais on voit jouer le Real dans ce stade d'entraînement au lieu de le voir au Bernabéu, même s'il aurait été vide. Mais
oui, ça, et Bernabéu était en travaux. En
ça
plus.
Donne un décalage encore pire avec ce que peut habituellement produire cette équipe devant un stade plein. Donc c'est un peu triste. Après une défaite contre le promu Cadix en Liga le week-end dernier, le Real, on dirait qu'ils sont pas entrés dans leur saison encore.
Marc,
c'est pour moi l'élément. Quand on rencontre le champion d'Ukraine, je ne sais pas s'il y a un club ukrainien qui avait déjà battu le Real Madrid. Je ne sais pas, il faudra se poser dessus. En tout cas, le Shakhtar, c'est une grande première pour eux. Mais à un moment donné, on ne peut pas se dire que bon, mais on reçoit ces joueurs-là, on peut tout se permettre. Parce que là, vous êtes gentil, vous dites que c'est une équipe abysse. Mais là, c'est carrément... C'est-à-dire que si c'est Paris, il n'y a pas 9 stars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 9 joueurs très importants. C'est-à-dire que là, ils ont fait rentrer des bébés, des jeunes comme United qui fait jouer des gamins au Parc des Princes face à Paris en Coupe d'Europe. Et ils ne sont pas dedans. Ils disent, oh, ben, ça va passer. Bon, il n'y a pas de problème. Et ce stade, pour moi, c'est un gros problème. À un moment donné, il faut re-rentrer dans son stade et arrêter de faire ça parce que ce n'est pas possible.
Vous pensez que c'est le stade, même vide, même creux, ça joue?
Non, mais quand on sort du confinement, OK, pour des raisons, OK, on va... Mais là, maintenant, il faut rejouer dans son stade. Il faut arrêter les bêtises parce que, quoi qu'il arrive, il y a une enceinte, il y a un lieu, même si c'est vide, il y a quelque chose. Là,
ça en impose aux joueurs.
Là, c'est même pas en pré-saison. C'est-à-dire, vous êtes chez les copains, vous vous amusez, c'est le dimanche, on descend au quartier, on va s'amuser, quoi. En plus, il se passe rien, il y a rien, il se passe rien. Donc, franchement, qu'est-ce qu'ils attendent pour retourner dans le stade? Alors, peut-être qu'ils vont changer dans pas longtemps, parce qu'avec cette première défaite aussi en championnat, mais il faut qu'ils montrent autre chose et ça suffit pas.
On avait parlé de ce contexte dans Radio Foot lundi, je me souviens très bien, avec Chérif Guémour et Habib Bey. Et tout à l'heure, Chérif Guémour, justement, me disait, on en revient à ce qu'on a dit lundi, c'est-à-dire ce moment un peu irrationnel du monde du football d'une façon générale, et notamment européen, entre le Covid, entre la fatigue, la préparation tronquée aussi, parce qu'il y a eu ce Final 8, alors ce tournoi de Lisbonne, mais qui a quand même reculé, par exemple, là, on va se retrouver avec tous les matchs de Ligue des Champions en même temps. Les calendriers aussi qui sont surchargés, puisqu'on joue en milieu de semaine la Ligue des Champions et juste le week-end, on joue en championnat, donc tous les 3 jours, effectivement. Est-ce que ça donne le ton de la saison qui vient, ces surprises comme ça, le Real battu à domicile par le Shakhtar?
On va avoir des surprises pour moi en pagaille, ça va pas s'arrêter, c'est que le début et les blessures. Mais rappelez-vous, pendant le confinement, j'étais, je pense, peut-être un des seuls à ne pas vouloir ce que ça reprenne. Je ne voulais pas qu'il y ait ce Final 8 parce que
on décale tout le processus d'un joueur de foot. Je vous l'ai dit, pendant 15 ou 20 ans, moi, j'ai mangé la même chose. Je me suis entraîné à la même période. J'ai eu mes vacances à la même période. Je suis parti en vacances début juin et je rentrais fin juin. Je reprenais. Là, le processus du joueur de foot, il est complètement à l'envers. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Pendant 15 ans ou 20 ans, moi, je sais qu'à partir de fin mai, je suis en vacances. Le 15 ou le 16 juin, je reprends à courir. Je reprends le trotting, je reprends les abdos. Et le 22-23, je suis sur le terrain. Là, on a tout décalé. Donc maintenant, il faut en assumer les conséquences.
Oui, et puis Marc,
faut en assumer les conséquences. Alors, j'entends bien, tu sais, mais non, mais on pouvait pas, voir, il fallait jouer quoi? Il fallait juste s'arrêter au mois de juin. Alors certains, oui, mais ça marche dans certains pays. On va avoir les retombées, les blessures, le décalage. Les joueurs, certains, ils sont à l'envers de tout. C'est-à-dire que c'est un processus. Alors ça paraît fou. Moi, je suis ancien footeux. Moi, j'ai arrêté ma carrière pendant 6 mois. J'avais mon corps, il courait à côté de moi. Alors j'étais assis dans mon canapé. Parce que le processus est fait que c'est une machine. Mm-hmm. Comment ils ont vécu ce décalage? Ils s'en sont pas soucié. Ah non, il faut que l'argent ça rentre dans les caisses, donc il faut faire des matchs, il faut faire ci. Eh bien maintenant, on paye tout ça.
Il y a un énorme business. Non,
mais
effectivement,
en plus, cette saison, elle va être très le calendrier va être très comprimé parce qu'il y a
l'équipe de France, t'as trois matchs d'équipe de France en 8 jours.
L'euro qui a été décalé d'un an et qui est un euro à 24 équipes, donc il faut finir tôt les saisons. Ça va resserrer d'autant plus les choses et c'est pour ça qu'on voit des résultats improbables comme le 7-2 de Aston Villa contre Liverpool par exemple, comme la
United, ils en ont pris combien l'autre jour? 6-7,
oui, voilà. 6. Donc c'est effectivement, on risque de voir, en plus le fait que ça se joue dans des stades vides, devant des stades vides la plupart du temps, ou des stades avec très peu de public, ça fait perdre l'avantage du terrain et
du domicile.
Donc ça accroît l'irrationalité des résultats. Oui, on va avoir une saison bizarre.
On a quelques minutes avant de parler du Paris Saint-Germain et de revenir à la défaite d'hier sur les résultats du soir. D'abord, honneur aux champions, Bayern Munich, champion sortant. Ils ont remporté leur match ce soir sur le score de 4-0 face à l'Atlético Madrid. C'était pas un débutant. On a eu des beaux buts et notamment le doublé de Kingsley Coman.
Kingsley Coman, Marc, encore une fois, oui, qui a été très bon, mais surtout. Eux, il n'y a pas de différence entre ce qui s'est passé il y a deux, parce que nous, on dit, vous vous rendez compte, Paris, il y a 2 mois, et maintenant, la différence, c'est que le Bayern, en 2 mois, il n'y a pas de différence. C'est une machine, tout le monde est programmé, tout le monde bosse, voilà. Et nous, on a
alors, ils avaient une fin de championnat à peu près normale, ensuite, il y a eu le tournoi l'été, mais c'est vrai que.
Ils avaient repris le championnat le 16 mai, eux, quand même, donc ils avaient eu des matchs avant, ils étaient presque. Est-ce que c'était mieux de dire Paris a joué 3 matchs, ou ils ont joué 13 ou 14 matchs avant la finale, donc.
Non, mais c'est surtout ce qui est frappant quand on regarde jouer le Bayern, on comprend tout de suite qui fait quoi, comment on joue, quels sont les circuits préférentiels. Quand on regarde le PSG, on va en parler après, ça change d'un match à l'autre, on comprend rien.
On a aussi un joli score et c'est celui de l'Atalanta, toujours aussi plaisante à voir jouer, avec ses buteurs de l'an dernier qui sont revenus, Zapata, Gomez, Papou Gomez, Muriel.
But magnifique.
4-0.
Maranchuk, toujours des frappes de balles très pures.
En dehors de la surface aussi.
Des actions d'école, centre, une remise, une frappe. Enfin, c'est une belle équipe. Alors, il faut juste mettre un petit bémol, c'est que Midtjylland, un invité surprise, qui apprend, qui vit sa première participation et qui est pas d'un niveau exceptionnel, mais c'est à l'extérieur, c'est sous une pluie battante.
Chaque tueur des gamins face à Real.
Oui, absolument. Absolument. Et donc c'est une belle équipe, l'Atalanta.
On a la victoire de Liverpool à Amsterdam, 1-0 sur un but contre son
misé.
Camp.
J'aurais pas misé un centime, vous savez pourquoi, par rapport à la blessure de Van Dijk. Parce que c'est dans les têtes des joueurs, je pense qu'ils sont tous touchés. Et bravo à eux, mais c'était difficile. C'est un CSC en plus.
Un but contre son camp.
L'essentiel, c'est les 3 points. Bon, voilà. Ils les ont.
Et dans la tête, ça va être difficile pour eux.
Ouais, ça va être compliqué. Donc, on a eu aussi un joli score. C'est celui de l'Inter Milan face au Borussia Mönchengladbach. Ils ont eu du mal. Ils perdaient en début de match. Et un doublé de Lukaku.
Lukaku en fin de rencontre, 90e qui marque.
Lukaku.
Toujours aussi présent. Ouais. Alors, c'est des buts un peu drôles. Mais il faut simplement être là. Exactement.
À noter qu'en début de soirée, au moment où le Real perdait face au Shakhtar Donetsk, le RB Salzbourg, hein, le club l'antichambre de Leipzig,
là jouait. On peut dire Red Bull.
Oui, là on peut le dire. Face au Lokomotiv Moscou, un score de 2-2, simplement pour le plaisir. À noter le but de Eder, un certain joueur portugais.
Ah, ça vous rappelle des souvenirs.
En 2016, non,
on peut s'en souvenir.
C'est un des méchants.
Voilà pour ce qui était donc de la soirée de ce soir en Ligue des Champions, la deuxième de la semaine. Et comme on vous l'a dit, il y en aura deux chaque semaine.
Ça va être très rapproché.
Ouais, jusqu'au 9 décembre, sauf pendant la période internationale. On va revenir eh bien, sur le cas du PSG, l'énigme de la prestation d'hier soir. On s'est tous interrogés en première partie de Radio Foot avec Dominique Sévrac, avec Nabil Djellit et justement eh bien, et Salim Boumgali. On y revient et on commentera ensuite.
Le but fantastique de Manchester United, Marcus Rashford.
Oh, Rashford, Marcus Rashford, ils refont le coup de huitième de finale il y a un an et demi.
C'est lui qui avait marqué le pénalty il y a un an et demi, qui avait crucifié les Parisiens à la 94e.
Les Red Devils viennent faire très mal aux Parisiens.
Ici, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, 2-1 pour Manchester United, et ça n'est pas un hold-up.
Ça n'est pas un hold-up, nous dit Frédéric Suto, qui est commenté hier pour RFI. Pourtant, on a tous cru ou on a tous voulu croire que les finalistes de Lisbonne, même malheureux finalistes, hein, en finale face au Bayern, eh bien, rentraient comme vice-champion d'Europe. C'est déjà pas mal. Avaient progressé, passé un certain cap, au moins psychologique, n'est-ce pas? Que nenni, Dominique. Hier soir, on a vu les stars du PSG qui nous ont rejoué le même match qu'à Lisbonne en deuxième mi-temps, qu'à Dortmund le match aller, qu'à Paris aussi face au même Manchester United. Alors on s'interroge depuis hier soir et il semble que Thomas Tuchel aussi.
Et voilà, c'était une performance, comme vous avez dit, sans intensité, sans agressivité, sans récupération de ballon, sans contre-pressing, sans intensité avec le ballon. Un peu bizarre, honnêtement, un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi.
Un peu bizarre, donc Dominique.
Vous avez dit bizarre.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Alors, l'explication la plus sérieuse que j'ai, c'est qu'en France, il y a un couvre-feu à 21h, que le match a commencé à 21h et que les Parisiens l'ont respecté à la lettre. Ils ont décidé de rentrer chez eux, que je les ai pas vus.
C'était leur cousin.
Voilà. Je ne sais pas qui était là, mais voilà. C'était pas l'équipe du Paris Saint-Germain que je ne connais, que je connais.
Voilà quoi?
Donc,
l'équipe, vous dites?
Oui, l'équipe.
Pas vu d'équipe, moi non plus. Non.
Bah voilà, c'est pour ça, ce n'est pas, mais franchement.
Vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis si longtemps, on les suit sur la Ligue des Champions depuis que le Qatar est là, tous les ans, avec de grosses attente. Là, le premier match, on a demandé hier à Eric Rabessandratana s'il était un peu inquiet. Il dit non, mais pour le premier match, là, et tout. Pas du tout.
Vous auriez posé la question à n'importe qui.
Oui, j'aurais dit la même chose.
J'aurais dit la même chose.
À part une entrée en matière compliquée à Liverpool il y a deux ans, en général, ils réussissent plutôt bien leur entrée en la matière. Je crois que ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas perdu en Ligue des Champions, donc en Coupe d'Europe. Donc, il n'y a pas d'explication majeure avec un match en retard.
Ça les motive plus, ça les fait pas rêver, la Ligue des Champions. On a l'impression que
j'imagine qu'entre Nîmes, il y a Nîmes la semaine dernière, Dijon ce week-end. J'imagine qu'entre les deux, c'était le match de Manchester qui les intéressait de jouer. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'absence de Marco Verratti au milieu, parce que j'ai vu un milieu affreux aux premières périodes, trois joueurs qui se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble et qui crée du jeu. Est-ce que l'absence de Bernat, même si Kurzawa a pas fait un mauvais match, est-ce que le fait, moi je trouve que le plus gros problème, si on parle de jeu, c'est l'association entre Di Maria, Neymar et Mbappé.
C'est incroyable. Je trouve ça dingue. Les trois meilleurs de l'équipe.
Je trouve ça dingue qu'on est 3 ans après l'association de Neymar et d'Mbappé. Ils ont été réunis ensemble à l'été 2017. On est plus de 3 ans après, presque 3 ans et demi. Et j'ai l'impression qu'on sait toujours pas comment il faut qu'ils jouent tous les deux ou tous les trois ensemble. Moi, c'est inquiétant parce que s'il y a bien une force au Paris Saint-Germain, il me semble que l'Europe leur envie, c'est qu'ils aient Neymar et Mbappé. Parce que au moins Mbappé, toute l'Europe le veut. Je pense que Neymar, il y a d'autres problèmes, mais je pense que les clubs seraient contents de l'accueillir. Mais et pourtant, les deux, ça ne marche pas. Donc, c'est pas eux qui font basculer ce genre de match. Ils n'ont pas marqué.
Qu'est-ce qu'il y a, ils n'avaient pas envie. Ils n'ont pas marqué. Ils étaient fatigués. Ils n'étaient pas motivés. Ils se disaient c'est le premier match.
Je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques. Je pense que dans leur dos, il y avait très peu de ballons qui arrivaient.
Une équipe comptait en deux.
Donc il y avait pas de création. Donc au bout d'un moment, soit Neymar dribble toute l'équipe. Il y va individuellement. C'est-à-dire qu'on en vient aussi à... Ça fait 2 ans qu'on a Thomas Tuchel et on se dit qu'il n'y a toujours pas de progression dans le jeu, que ça marche sur des exploits individuels. Un jour, c'est Di Maria, un jour, c'est Neymar. Un jour, ça peut être Icardi quand il a une bonne période.
C'est vrai qu'on répète un peu souvent.
Et là, il n'y a toujours pas de jeu. Il n'y en avait pas énormément sous Unai Emery. Il y en avait sous Laurent Blanc. Ça s'est arrêté au quart de finale. Pourtant, c'est les meilleures années en termes de jeu. Oui. Mais ça s'est arrêté toujours au quart de finale. Il y a un problème psychologique.
Salim,
c'est compliqué.
Est-ce que vous...
Mais bon, rien n'est perdu. Hein. C'est une entrée en matière ratée.
Non, mais c'est déjà compliqué. Parce que perdre le premier match.
Ils ont oublié dans la poule, il y avait aussi Leipzig. Il y a Beşiktaş, un club turc qui n'est pas très fort. Mais entre Manchester, Leipzig et Paris, il y en a un qui va rester sur le carreau.
Salim, bon alors évidemment vous avez beaucoup regardé Manchester, mais est-ce que vous comprenez l'apathie, on va dire, de ce Paris Saint-Germain?
Mais non, mais enfin surtout il y a des chiffres assez intéressants de cette partie lorsque l'on voit que Mbappé a couru 2 kilomètres de moins que Marcus Rashford, quand on voit qu'il y a une vingtaine de courses à haute intensité de moins de Mbappé par rapport à Rashford. Je rappelle, les courses à haute intensité, c'est des sprints à plus de 25 km/h. Donc Rashford a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cavalé que Mbappé. J'ai presque envie de dire...
Il a marqué, d'ailleurs.
Alors, je me permets d'individualiser, même si au final, c'est collectif, et Dominique l'a très bien dit, mais... Par exemple, le cas Mbappé est intéressant. Ça fait un moment qu'il a plus marqué, par exemple, en Ligue des Champions, quand même. On l'attend aussi dans ces rencontres-là. Et au final, il ne le fait pas. On l'attend qu'il prenne un peu ses responsabilités. Neymar le fait de temps en temps. Bon, hier, ça n'a pas été le cas, mais à Lisbonne, il était là, il était en mode leader. Mbappé, bon sang, encore hier, il a tenté des pseudo-choses, mais il n'a pas réussi. Mbappé, 13 ans de ça. Et à un moment, je m'inquiète. Mbappé, alors, on connaît tout son talent incroyable, extraordinaire. Mais en Ligue des Champions,
son entraîneur l'a pas aidé. Il avait participé aux 3 matchs de l'équipe de France et il l'a fait jouer deux jours après
Nîmes.
Vous
avez raison.
Et je trouve que c'était pour moi un danger. Et je l'ai dit dès le match de Nîmes. J'ai dit on va en payer les conséquences. Mais il va en payer les conséquences. Et il me semble que hier soir, une des problèmes, c'est qu'il ait beaucoup joué ces derniers temps.
David Lantolari.
À l'issue, Annie, d'un match qui avait lieu en parallèle entre la Lazio Rome et Dortmund, Lucien Favre, j'ai bien écouté sa conférence de presse, et il a reproché durement à ces jeunes attaquants, ces jeunes joueurs offensifs, de ne pas faire les replis défensifs, de ne pas courir à haute intensité précisément pour revenir, aider la défense, etc. Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle entre ce reproche et ce qu'on a vu des joueurs du Paris Saint-Germain hier? Ça voudrait dire dans ce cas-là que des Neymar, des Mbappé, des Di Maria et quelques autres sont pas matures.
Sont pas concernés.
C'est quand même compliqué de dire ça.
C'est compliqué, surtout Neymar qui quand même a un âge entre guillemets avancé, je parle en termes de foot. Di Maria aussi, Mbappé certes est plus
jeune. Salim, dans une équipe, s'il y a une star, un Messi, un Cristiano Ronaldo qui ne fait pas les efforts, on comprend, on accepte et on garde l'équilibre à peu près avec les 10 autres. Mais là, s'il y en a 3 ou 4 qui font pas d'efforts, ça devient compliqué.
Mais en revanche, ce qui est assez sidérant, c'est, Dominique le disait, vous avez ces deux joueurs, Neymar, Mbappé et donc Di Maria, on a l'impression que depuis 2 ans, on n'arrive pas à les faire jouer ensemble. J'entends par là des formules intéressantes. On évoquait la gestion du cas Mbappé aussi sur ces derniers jours où le joueur, il a joué quand même à Nîmes. Pas certain qu'il était utile de le faire jouer. Enfin, à un moment donné, le cas Thomas Tuchel, il va devenir aussi très gênant, lui, quoi.
Bah justement. Pas sûr que sa finale le protège si longtemps que ça. Bah oui. Il a fait une finale le 23 août. Il y a 55, comment vous avez dit pour le Bayern?
58 jours.
Tout au moins.
58 jours.
58 jours, mais on a déjà oublié peut-être un peu. Il n'a pas gagné.
Pas trop, mais justement, c'est vrai que Thomas Tuchel se retrouve un peu au centre, au moins des critiques, parce que après, pour le reste, s'il doit partir ou pas, on peut pas le savoir. Mais on lui reproche souvent de ne pas avoir peut-être assez de poigne. On lui reproche ses compositions d'équipe. On lui reproche aussi de ne pas avoir donné de style de jeu à son équipe. Est-ce que c'est une marque Tuchel entre guillemets, David Lortolari, vous qui l'aviez beaucoup suivi quand il a fait sa carrière en Allemagne?
Fait, David a fait.
Non, mais moi, je bute sur plusieurs paradoxes là. On se souvient d'images fortes au début quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Oui. On enlace les joueurs, on prend par les épaules.
Latine attitude.
Était-ce des images de communication à destination des caméras? Peut-être en partie.
La direction de ses joueurs aussi. aussi, sans doute. C'était un message un peu de copain.
Mais le style, la patte pour elle, elle est où ?
Ce qui m'étonne beaucoup,
ça,
moi...
Ça a disparu, en plus. Hein.
Ce qui m'étonne beaucoup, moi, c'est que c'est un tacticien fin, presque idéologue, presque buté, borné sur ses idées, sur son système, qui est en lien avec d'autres entraîneurs très, très cotés du moment, notamment Guardiola, pour ne pas faire de parallèles scabreux. Et à côté de ça, on a l'impression d'une capacité à manager défaillante et d'un pouvoir effrité vis-à-vis de ses joueurs ou vis-à-vis de son directeur sportif. Pour un homme qui veut assumer, qui veut avoir du pouvoir, qui est quand même, je pense, grassement payé, il y a quand même un paradoxe là. Il y a un moment où il va falloir que ça casse dans un sens ou dans l'autre. C'est déjà arrivé par le passé avec cet entraîneur, Dominique, dans des clubs où il était précédemment, comme par ailleurs pour Lucien Favre, où à un moment il dit « ça suffit, j'arrête, ça va plus, je suis dans une impasse ». Est-on loin de cela ? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il y a un souci. Parce qu'il est très bon tactiquement, théoriquement. Il est un théoricien du football. Et là, il ne sait pas faire jouer ses joueurs ensemble. Est-ce que c'est un problème de management ou un problème tactique ? Je pencherais plutôt pour la première hypothèse.
Mais la différence avec son mentor Guardiola, qui a eu évidemment le Barcelone, mais aussi le Bayern et Manchester City, c'est que c'est pour la première fois qu'il est confronté pour la première fois à investir de ce niveau-là, avec ces égos-là. Il n'a pas connu ça à Mayence, à Dortmund, il n'y a pas eu Ousmane Dembélé, c'est pas ça qui était difficile à gérer. Il débutait au bon niveau. Là, il a Neymar, il a Mbappé, il a Di Maria, il a Icardi, il avait Cavani, il avait Thiago Silva. Et je pense que ça, c'est peut-être, on voit avec Bielsa, qui s'est jamais confronté à ces types de vestiaires-là. Il a une carrière fantastique, mais il a jamais entraîné Real Madrid, Barcelone.
C'est des théoriciens dans l'absolu.
Voilà,
quoi.
C'est des théoriciens qui ne vont. Et c'est un autre métier de gérer des stars. C'est un autre métier. C'est là où Flick, par exemple, pour moi, c'est aussi une réussite.
Zidane,
voilà.
Ça fait.
À juste titre, on critique Thomas Tuchel et le PSG, mais bravo tout de même à United qui a fait un bon match. Bien et sûr. Certains leaders, Bruno Fernandes, malgré son penalty raté, il l'a retransformé. Rashford également. Rashford, comme il y a deux ans, il avait marqué le dernier but à la dernière seconde. Là, pareil.
Et oui, Rashford sans cœur contre les Parisiens et qui a marqué ce deuxième but, signant la victoire des Mancuniens dans le stade du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Quelle explication ? Comment vous comprenez cette défaite, Marc Libra, du Paris Saint-Germain hier soir sur sa pelouse, deux mois après avoir été finaliste de la Ligue des Champions ?
D'une part, ils sont pas dans le bon tempo et quand on fait pas les efforts tous ensemble, quand on veut faire son petit numéro, quand on voit qu'avant le match on nous annonce, bon mais il n'y a pas Pogba qui est le joueur star, on met McTominay en 6, oh, ça va être compliqué, ils mettent qu'un attaquant devant, bon, ils mettent l'autobus, on nous annonce, donc mais en fait on a une équipe en face qui sait jouer, qui sait préparer ses grands rendez-vous, et en face on a des joueurs, on a des divas qui peuvent se permettre de ne pas faire les efforts, une équipe doit défendre ensemble, et là on ne défend pas, Neymar ne défend pas, Mbappé n'a pas besoin de défendre, monsieur Mbappé, il pense que ça va passer, et ben ça passe pas. Et encore, ils ont de la chance, ils ont un grand gardien. Parce qu'ils n'ont pas un grand gardien, s'ils ont les gardiens précédents, peut-être qu'il y a 3 ou 4-0. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est un problème. Quand les attaquants doivent être les premiers défenseurs, et quand vous avez 3, voire 4 joueurs qui ne défendent pas, eh ben, ça vous arrive en frontal. Après, il y a, mais c'est le milieu de terrain, c'est tel joueur. Ok, mais devant, ça doit faire les efforts. Et quand vos stars ne jouent pas et ne veulent pas jouer, ben, ça donne ce genre de choses. C'est dommage, hein, parce que ils choisissent leur match. Ces messieurs, ouais, ces attaquants.
Justement, entre Nîmes et Dijon, ils choisissent pas.
Mais c'est facile face à Nîmes. C'est facile. On peut chambrer, on peut faire des râteaux, on peut faire des roulettes, on peut faire la fête de l'œil.
Mais on dit qu'ils vivent pour la Ligue des Champions, ces grands joueurs.
Mais non, mais c'est. Mais Annie, depuis le temps qu'on les a pris, ils ont gagné avec des champions. C'est pas nouveau. Il y a toujours des défaillances à ce niveau-là. Mais par contre, face à Nîmes, là, ils sont forts. Alors là, ils sont très forts. Mais dès qu'il y a... On va prendre l'exemple d'Mbappé face à Pep au Portugal. Ça a été très compliqué face à un joueur qui a 37 ans.
Exactement.
On est d'accord? Donc c'est difficile.
Patrick Juillard, vous, comment vous voyez cette défaite du Paris Saint-Germain ?
Moi, je pense que ce club ne fonctionne pas, mais au-delà des joueurs, tout ce qu'a dit Marc est juste. C'est-à-dire qu'ils font pas les efforts les uns pour les autres. Et ils ont un peu pris le pouvoir à l'intérieur du club, donc c'est la République des stars. Et quand les stars sont pas là, il y a plus grand monde, parce que hier on voit Mbappé et Neymar jouer tout seuls, Di Maria pas jouer du tout, donc qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose.
Vous avez un milieu de terrain. Et pourquoi ces stars sont pas là pour un match de Ligue des Champions
où
tout le monde les regarde ?
De Verratti, donc avec une certaine incapacité à jouer vers l'avant, donc ça coupe l'équipe en deux. Et vous avez une défense qui est un peu inexpérimentée. Moi, je pense que le problème est plus global, c'est-à-dire qu'au niveau du club, il y a un divorce entre la direction sportive côté Leonardo, et l'entraîneur Tuchel. Donc c'est la guerre froide, c'est la guerre pas froide du tout quand il...
Oui, mais les joueurs, ils s'en moquent.
Oui et non, parce que...
Ça peut être l'excuse.
Oui et non, mais je pense que ça fait pas de bien et tout le monde tire pas dans le même sens. Voilà.
C'est la fin de Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé ce soir. C'est la fin aussi de cette soirée spéciale sur RFI. Laurent Salerno était à la réalisation. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Et on vous dit à demain à l'horaire normal.